France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Une obsession, c'est le titre de la nouvelle bande dessinée de Nine Antico, obsession pour le sexe. Mais à qui appartient ce désir? On en parle avec l'autrice qui sera mon invitée à partir de 13h. Et comme chaque jour, on commence par une séquence critique de romans de cette rentrée littéraire. Le livre de Kels de Sorge Chalandon qui paraît chez Grasset et Les forces de Laura Vasquez aux éditions du Sous-sol. Vous écoutez les midis de culture et c'est une joie de vous savoir là. Et je suis toute joie aussi de retrouver les critiques des midis aujourd'hui. Marie Sorbier, rédactrice en chef de IO et productrice du Point Culture sur France Culture.
Bonjour Marie.
Bonjour, et Johan Farber, éditeur, essayiste et critique littéraire.
Bonjour Marie.
Bonjour et bienvenue à tous les deux. Alors, ça y est, la rentrée est passée, les vacances sont loin. Alors à défaut de mer turquoise, on se jette dans le bain de la littérature et on commence avec le 12e roman de Sorge Chalandon, le livre de Kels paru le 13 août dernier chez Grasset. Chalandon qui revient à une veine autobiographique qu'il avait explorée avec Enfant de salaud, mais nombre de ses romans sont ancrés dans les expériences de l'auteur, né à Lyon, élevé dans une famille toxique, marquée en particulier par la violence du père. Ici donc, Sorge Chalandon a 17 ans, il décide de quitter cette vie et part les poches quasiment vides à Paris. Nous sommes dans les années 70, il rêve de communauté et d'idéal, il va connaître la misère, la peur, la solitude avant d'être embarqué dans les combats de la gauche prolétarienne. Alors Marie Sorbier, quelques mots pour commencer.
Ce livre, c'est vraiment la cheville manquante dans l'œuvre de Chalandon, qui raconte quand même depuis une dizaine de romans son enfance lyonnaise avec ce père violent et mythomane. Alors on connaissait l'enfance, on connaissait son arrivée à Libération et puis ses reportages après, mais on ne connaissait pas le moment de la fuite, c'est ce qu'il raconte là. On connaissait pas non plus peut-être ses premiers engagements politiques. Alors, certains passages m'ont intéressé assez peu, je dois le dire, parce que globalement, j'ai trouvé que ce livre était beaucoup trop délayé et si certains passages m'ont intéressé, j'ai eu très peu d'émotions, donc je me suis un peu mis à distance au fur et à mesure de la lecture que j'ai trouvé quand même trop longue.
Johan Farber.
Moi, je vais rejoindre exactement l'avis de Marie. Je trouve que ce livre est sympathique à lire, ce qui n'est pas forcément un compliment, parce que on le lit très bien, mais pour moi, il y a eu trois problèmes de fond qui se posent. J'ai l'impression d'assister plus à une mythographie qu'à une autobiographie. J'ai l'impression que ce livre qui évoque effectivement ses premiers engagements politiques aux côtés de la gauche prolétarienne n'est pas un livre politique, mais qu'il fait de la politique un décor. Et troisième point, beaucoup plus embêtant, c'est que à mon avis, il y a un souci majeur, c'est comment raconter une expérience révolutionnaire avec un récit aussi conformiste.
On va écouter tout de suite les mots de Sorge Chalandon avant d'en parler ensemble.
Avril 1970. Avant d'affronter Ibiza et Katmandou, j'ai choisi le sud. Pas très loin, la Camargue. La plage des Sainte-Marie-de-la-Mer ressemblait à un campement d'enfants sauvages. Ni législation, ni autorisation, chacun plantait sa tente sur son îlot de sable en se croyant Robinson. Je n'avais que mon sac de couchage bleu. Aucune toile au-dessus de la tête, aucun abri. Lorsque tu te sauves, quand tu dévales les escaliers de chez toi, ta rue d'enfance vers le lycée, mais que tu tournes à gauche au carrefour, lorsque tu marches vers la gare, lorsque tu montes dans un train sans billets, dissimulé dans les toilettes pour te jouer du contrôleur, tu n'imagines pas la vie à venir autrement qu'ensoleillée. Tes jours seront désormais protégés par un ciel de printemps. Et si tu croises un orage, il sera tragique et beau comme un poème de Jules Supervielle, aux nuages enivrés partis pour des combats nouveaux. Désormais, les gouttes de pluie ne serviront qu'à remplir ta gourde d'eau fraîche, et le soleil réchauffera ton corps après la rosée du matin. Jamais le froid du vent, jamais le glacé du givre, jamais l'eau du ciel qui te pénètre jusqu'aux os. C'est ce que tu crois, c'est ce que tu espères.
Merci à Anaïs Isbert pour la lecture de cet extrait du livre de Kels, donc de Sorge Chalandon, paru, je le rappelle, chez Grasset. Marie Sorbier, on va peut-être quand même commencer par ce qui vous a intéressé.
Oui, alors il y a deux scènes qui m'ont intéressée. La première, c'est pas une scène d'ailleurs, c'est un parti pris qui est la description de la mère. Il nous avait quand même beaucoup parlé de son père dans les précédents romans, qu'on connaît quand même bien pour les lecteurs de Sorge Chalandon, qui est donc ce père complètement complotiste et mythomane et violent. Mais la mère, elle était pour lui quelqu'un de très effacé, qui a subi en fait cette violence et qui surtout n'a pas protégé ses enfants. Et là, par un détour romanesque, et c'est peut-être le seul endroit où il y a vraiment du roman, et c'est pour ça que ça m'a plu, il en fait une petite héroïne, ou en tout cas une héroïne pour lui. Donc il lui rend grâce, et ça c'est assez joli. Il pense dans un délire sous LSD, qui est la deuxième scène qui m'a plu dans ce livre, c'est que quand il est dans la rue, donc dans la première partie du livre, il y a un moment donné, il se fait embarquer dans une soirée LSD, il n'a jamais pris de drogue, bref, il en prend, et donc il raconte tout son trip. Et dans ce délire-là, il voit, il pense que sa mère est une camarade de Angela Davis qui vient de se faire arrêter aux États-Unis, et donc d'un coup il voit sa mère comme une héroïne cachée et il se dit en fait finalement quand je pensais qu'elle allait faire les courses la journée, elle allait aux États-Unis avec Angela Davis pour militer. Et il la magnifie en fait dans un trip sous LSD, et ce moment-là est assez joli parce que évidemment on sent très bien que c'est un trip sous LSD, que ce n'est pas la réalité, que sa mère n'a certainement pas eu la portée héroïque qu'il lui donne, mais le simple fait d'être le fils qui redonne ça à sa mère pour la glorifier, il y a un passage assez joli parce que romanesque. Mais c'est là où je voulais en venir, c'est que en fait on le sait, Sir Chalandon, il a un rapport à la vérité qui est très compliqué parce que son père était mythomane, donc il a en abomination le mensonge, et il a fait tout sa vie un combat pour la vérité. Or, il écrit des romans. Et là, on arrive toujours dans la même problématique littéraire, qui est une problématique intéressante. Mais dans ce roman-là, moi, je trouve qu'il essaie de se raconter. Je suis complètement d'accord avec vous avec le mot de mythographie que vous avez employé, parce que c'est vraiment ça qui se passe. Il réécrit son histoire en essayant de coller le plus possible à sa vérité. N'empêche qu'on a une première partie qui est quand même, malgré tout, une esthétisation de la misère. Enfin, moi, j'ai trouvé, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans des romans du 19e siècle, Oliver Twist ou je ne sais quoi, où on a ces gens dans la rue. Évidemment, il raconte des choses terribles. Hein. Je dis pas du tout que ce qui lui est arrivé n'est pas grave, et il a dû en baver pendant cette année passée à la rue. N'empêche que quand il l'écrit, il y a quelque chose de presque romantique dans cette année passée à la rue qui, au final, a fini par me gêner un peu, jusqu'à arriver à cette deuxième partie où là, on sort de tout romantisme et de tout roman et on arrive dans cet engagement militant. Et c'est Mao qui croise à Jussieu à la fin des années 60, qui l'ont sauvé. Hein. Ils l'ont sorti de la rue pour le mettre dans un appartement en dur, et je comprends la reconnaissance qu'il a. Mais là, on arrive dans quelque chose de très descriptif où il n'a pas de pensée politique, c'est-à-dire qu'il raconte ce qui s'est passé avec masse de détails concrets, ce qui pour le coup, moi, m'a un peu intéressé concrètement, en disant, ah bon, mais comment il faisait en fait cette action militante, mais il ne prend aucun recul et il ne donne pas sa pensée, en fait. Il est vraiment juste dans la description, comme si c'était un accouchement, ce livre, comme s'il voulait nous dire, voilà, je vous avais pas tout raconté, il y avait ce passage-là, il y avait ces deux parties, la rue et l'engagement politique, mais qui n'en faisait rien, en fait. Il n'y a pas de recul, il n'y a pas d'élévation. Donc on est un peu collé et finalement on finit par s'ennuyer.
Johan Farber.
Ah oui, j'ai éprouvé le même ennui, alors que c'est très très simple à lire parce que c'est un livre extrêmement académique, et donc l'académisme c'est avant tout une forme psychologique, et donc on ressent un certain confort à n'avoir aucun obstacle de lecture. Sauf que moi je rejoins absolument ce que vous venez de dire, Marie. Il y a deux problèmes dans ce livre, à la fois un problème de romanticisation de soi, qui passe par une héroïsation forcenée, c'est-à-dire il se sort toujours de situations à la Oliver Twist, avec un côté comme ça assez léger, qui met à distance toute émotion. C'est-à-dire que, effectivement, vous le disiez, on peut pas ressentir d'émotion parce que le lyrisme est pâteau. Le lyrisme est très fort, il est pâteau. Chaque fois qu'il lui arrive quelque chose, le style est embarqué dans un espèce de lyrisme un peu kitsch qui aboutit à des espèces d'aphorismes ou de maximes. J'ai croqué le fruit défendu, ou je venais d'être adulte alors que j'étais encore à peine adolescent. Bref, des formules assez plates, alors que l'existence qu'il est censé raconter doit être fournie en aventure. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Et le deuxième problème, qui est pour moi manifeste et majeur, c'est celui de la folklorisation des luttes politiques. Et cette folklorisation des luttes politiques, elle passe pour moi par un syndrome que j'appelle la sartrose. C'est-à-dire que la sartrose, c'est cette fascination que Sir Chalandon a pour Sartre. D'ailleurs, le personnage transporte toujours avec lui la nausée. Sauf que la nausée, c'est 1938, on est en 2025. Et cet engagement, cette littérature engagée, elle ne produit pas, en fait, comme vous le disiez, de verdict politique à la fois sur l'époque qu'il raconte, les années 70, et sur notre époque. Et la sartrose, vous voyez, on entend arthrose, et parce qu'il y a un problème d'articulation dans ce récit. Ce récit, il est partagé entre, d'un côté, une littérature pesante à message, Sartre, et de l'autre, une exaltation autour de la route de la Beat Generation avec Kerouac comme idole. Et de fait, entre les deux, c'est un trou noir, et on tombe effectivement là dans un espèce espèce de passéisme narratif qui produit en fait des disjonctions. Vous parliez de l'épisode du LSD. Moi, l'épisode du LSD, il m'a posé problème parce que comment traduire une expérience aussi extrême que celle de la prise de LSD par lui dans un récit aussi conformiste? Comment avoir une expérience extrême dans un récit qui est globalement très académique? Pour moi, ça produit pas en fait ni l'effet poétique, c'est-à-dire de structure du récit attendu, ni l'effet politique, puisque la politique, lorsqu'il y a des réunions à la GP, à la gauche prolétarienne, on aboutit à des caricatures de points de vue. On a l'impression que c'est qu'on est dans la GP version Okapi, c'est-à-dire avec des prises de position qui ne reflètent pas la densité. Par exemple, l'Assemblée des chrysanthèmes qui était le 1er novembre, la fin, la dissolution de la GP pour ne pas passer à la lutte armée, pour le dire très très vite. Il y avait l'année dernière dans Le Monde un article sur l'Assemblée des chrysanthèmes. Pardon, mais cet article était bien plus intéressant que ce qu'il peut nous en dire, parce que lui, il est spectateur de tout ça. On voit qu'il n'a pas été un acteur majeur. Peu importe, finalement, peu importe.
Oui, ça pourrait être intéressant.
Ça pourrait être intéressant.
Oui, le rôle d'observateur aurait pu être.
Le rôle d'observateur pourrait être intéressant.
Qui est un peu dépassé par les événements, comme il l'a été dans son enfance.
Exactement. Et là, en fait, cette position, elle en vient, comme je le disais tout à l'heure, à une espèce de folklorisation, de romanticisation, qui aplatit et affadit tout le caractère extrêmement polémique de l'époque, qui ne transparaît pas. À un moment donné, il est qualifié de militaro-débile, parce que effectivement, il y a toute cette frange de la GP, de la gauche prolétarienne, mais on n'a jamais peur quand il y a des affrontements. C'est-à-dire qu'on n'éprouve strictement rien. C'est comme si on restait en permanence derrière une vitre, et c'est effectivement extrêmement embêtant d'avoir un roman si peu engagé sur l'engagement.
Marie.
Le problème, c'est que sort Chalandon l'écrit aujourd'hui, ce livre. C'est-à-dire que s'il avait écrit ça dans ses premiers romans, beaucoup plus jeunes, on aurait peut-être été moins sévère. Le problème, c'est qu'on sait qui il est. Aujourd'hui, c'est un journaliste, qu'il a travaillé sur plein de terrains différents. Donc, on sait qu'il est capable de penser en fait cette période-là. Or, il se refuse à le faire, donc c'est évidemment un choix de sa part, il n'y a pas d'autre explication. Et je me suis demandé si c'était finalement sa construction qui le bloquait pas, parce que tout est extrêmement construit. Johan parlait d'académisme, c'est un roman qui est assez classique et qui est très maîtrisé au sens de cadre. C'est-à-dire qu'il y a des cadres partout, on sent que le plan est très linéaire, on suit parfaitement. Et donc on passe de la violence du père à la violence de la rue à la politique action violente. Donc le trajet est assez clair. Avec ça, il aurait pu faire quelque chose. Moi, ça m'intéresse, cette histoire de l'action violente, est-ce que politiquement on peut aller défendre ses camarades dans la rue avec la violence? Est-ce que c'est une possibilité? Est-ce que c'est une option? Il y a plein de penseurs qui ont pensé ça. C'est une question qui résonne aujourd'hui. Oui. Donc, je veux dire, il l'a écrit là en 2024. Ce livre, il sort en 2025. Donc, il aurait dû, selon moi, tirer ce fil-là. On est à la fin du roman. Il aurait très bien pu expliquer pourquoi ils ne l'ont pas fait, pourquoi lui, il était mal à l'aise à cette époque-là avec cette action violente. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'en échappe. Il ne le fait pas. Et donc, c'est très frustrant cette fin, parce qu'on est vraiment que sur de la description et il n'y a pas de pensée. Moi, j'attendais en disant, bah vas-y, dis-nous ce que tu penses de la violence. Elle est légitime, elle n'est pas légitime. Il faut aller venger ton camarade qui s'est fait tuer par des CRS. Et en fait, il ne dit pas. On a des faits, mais il ne fait rien. Ça, c'est un peu lassant, en fait, au fur et à mesure.
Oui, d'autant plus lassant qu'on a l'impression qu'il résume ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire que en fait, tous les épisodes qui sont racontés sont des épisodes, pour ceux qui s'intéressent à la gauche prolétarienne, sont connus. Et on n'apprend pas plus de choses, alors qu'il a pu vivre ces événements de l'intérieur. Donc c'est assez frustrant, effectivement, le mot est très juste, c'est assez frustrant de voir que cette autoroute qu'il trace, eh ben, au bout, il y a un mur pour nous.
Le livre de Kels de Sorge Chalandon, paru chez Grasset.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
On enchaîne donc avec un nouveau roman de Laura Vasquez. Il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'autobiographie, du parcours initiatique dans ce texte, même si Laura Vasquez n'a pas encore 40 ans pour sa part. Ce récit part de l'enfance, traverse l'adolescence pour accoster l'âge adulte. Prix Goncourt de poésie en 2023, Laura Vasquez déploie un long monologue, souvent introspectif, où la narratrice refuse de s'en tenir à l'état visible du monde et elle cherche sa place au-delà des normes. C'est érudit, mais c'est pas pompeux et apparemment c'est souvent drôle, drôle, Johan Farba. Bah, un petit mot pour commencer.
Oui, effectivement, là, avec Les Forces, Laura Vasquez signe, je trouve, un livre absolument formidable, magistral, parce que il porte à la fois une force poétique d'inventivité, une véritable force politique, c'est-à-dire que c'est un questionnement du monde dans lequel on vit, et puis c'est un livre qui fait l'éloge de la vie à travers sa recherche, et je trouve que là, elle signe, autant moi j'avais été assez dubitatif sur ses livres précédents, aujourd'hui, là, je trouve qu'elle signe un livre qui est vraiment indiscutable par sa richesse et sa grande accessibilité.
Marie Sorbier.
Alors moi, c'est un livre qui m'a fait beaucoup d'effet, physiquement d'abord, parce qu'à la lecture, je me sentais complètement exaltée. Je sautais toute seule sur mon fauteuil. En effet, j'ai beaucoup ri, on y reviendra sur l'humour aussi. Mais littérairement, surtout parce que je trouve qu'il dénote d'une telle maîtrise de sa langue, de son discours, de comment elle veut démembrer la parole pour lui redonner de la force. Pour moi, c'est ça le thème de ce livre-là. Je trouve que Laura Vasquez confirme là son immense talent.
Alors, on a de la chance, on a la voix de Laura Vasquez pour écouter un extrait de ce roman. Elle était l'invitée d'Arnaud Laporte dans l'émission Comme un samedi, c'était en mai dernier, on l'écoute.
Nous racontons la même histoire depuis des millénaires. Nous répétons la même histoire sous différentes formes. Elle contient l'obscurité, elle contient les soleils, les matières, les foudres. L'histoire est transparente et c'est toujours la même dans la totalité du temps. La totalité de l'histoire comprend des périodes antérieures aux mammifères et antérieures à la vie pluricellulaire. Elle parle en nous sans parole. C'est le premier mot, c'est la première phrase, c'est une seule histoire.
Les Forces, lues par Laura Vasquez herself. Johan Farber, justement, c'est très beau cette façon qu'elle a de lire très calmement. Et vous disiez, quand on le lit, on a l'impression que ça va beaucoup plus vite.
Exactement, parce que moi, ce qui me surprend à l'entendre ici, comme les auditeurs et les auditrices, c'est que le livre va très vite. Il est très percutant et son titre, Les Forces, effectivement, il y a quelque chose d'extrêmement physique. Et ça se caractérise, je crois, par vraiment une force poétique. C'est un récit d'une poétesse. Et donc, Le texte, je dirais, il a deux pôles. Un premier pôle de recherche poétique. On pense beaucoup dans cette espèce de quête initiatique, puisqu'elle traverse différentes strates. Elle va dans un bar lesbien, elle se retrouve après dans d'autres univers. Et cette quête poétique, elle fait vraiment penser, et là, il n'y a pas à en rougir, je veux dire, il n'y a pas à prendre ombrage, à Dante, à la Divine Comédie. Il y a quelque chose qui est vraiment puissant, mais modeste de ce côté-là. Et puis à René Daumal, aussi,
qu'elle cite,
parce que pour elle, la poésie, elle le dit, un poème, ça existe. Mmh. Donc c'est une force d'existence. Et à côté, il y a le roman. Et le roman, pour elle, elle dit la narration, elle cite Walter Benjamin, et elle dit la narration, c'est le mystère. Et Les Forces, c'est la conjugaison de cette puissance d'existence du poème avec la préservation du mystère de la narration. Et franchement, à la fois sur le plan existentiel, pour les lecteurs, ça c'est vraiment, je trouve, un manuel d'anti-développement personnel. Là, c'est là où ça peut vraiment marcher. On est, comme le disait très bien Marie, totalement exalté et enthousiaste parce que il y a une force, je dirais, d'induction qui est produite sur le lecteur. C'est une expérience physique. Il y a quelque chose de l'ordre de la kinésique, c'est-à-dire de la manipulation du lecteur avec des phrases qui sont débitées vraiment de manière, je dirais, pas incantatoire, mais avec une force de débit, vraiment un livre performatif. Mmh. Et d'une autre façon aussi, on a un texte qui propose une réflexion sur ce qu'est la société, ce qu'elle propose, comment quelqu'un qui se qualifie d'emblée comme elle de bizarre peut exister dans une société dont elle refuse, elle le dit, les structures collectives, mais dont elle cherche en fait la force de résistance. Et franchement, c'est un livre qui a une singularité comme on en rencontre très très peu.
Marie, c'est tout de même un roman.
Alors oui, tout à fait. Moi, j'avais un peu peur parce que je connaissais bien sa poésie et son théâtre. D'ailleurs, elle avait publié une pièce de théâtre. On l'entendait souvent dans les scènes contemporaines au théâtre parce que les metteurs en scène sont assez friands de sa prose. Donc, je me disais, un roman de Laura Vasquez, je ne voyais pas où ça allait aller. Mais c'est un roman et dans ce sens-là, elle a presque une forme classique. C'est bien la seule chose classique dans ce roman-là, mais c'est un roman d'apprentissage. On part avec une adolescente qui est avec ses parents et qui critique ses parents jusqu'à l'entrée dans l'âge adulte qu'elle fait, elle, via des expériences, comme peuvent le faire d'ailleurs plein de jeunes jeunes adultes, hein, que ce soit le bar lesbien ou les sectes, qui sont mon passage préféré, mais on y reviendra.
On pourrait revenir sur les sectes.
Voilà, on reviendra sur les sectes, ce passage très très drôle. Et donc, en fait, ce qu'elle réussit à faire incroyablement, je trouve, Laura Vasquez, et c'est pour ça que c'est un grand livre, et je trouve que c'est un livre qu'il faudrait offrir à plein de gens, et notamment à des jeunes gens, parce que je suis sûre que ça doit faire beaucoup de bien. Moi, j'aurais aimé le lire à 20 ans, ce livre, parce qu'il est très libératoire, voilà, parce que c'est une prose qui est à la fois exigeante. Attention, hein, moi j'ai rarement vu une langue comme la sienne. Elle maîtrise sa langue, c'est magnifique. Elle vient de la poésie, mais c'est scandé, c'est beau. On a envie de noter chaque phrase comme punchline, et c'est pas que des punchlines. Ça coule. Enfin, c'est une langue magnifique, mais ça n'exclut jamais le lecteur. Et là, je vous rejoins. C'est quand même un livre très accessible. Là, on le théorise, donc on a l'impression que c'est un livre d'intello. C'est pas ça. C'est un livre qui parle beaucoup plus au corps, au physique, à ce que ça veut dire être débordé par ses pensées, qui est quelque chose qu'on a peut-être tous expérimenté. Elle a des passages très beaux où elle dit, en fait, quand les gens me parlent, j'arrive pas à écouter parce que moi, dans ma tête, ça parle tellement que ce que dit l'autre en face, c'est trop. Elle a plein de choses comme ça. Elle décrit, en fait, des sensations qu'on a tous dans notre vie de façon très concrète et très drôle. Et elle pousse, en fait. Elle l'ouvre. Moi, ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est que j'ai eu l'impression d'avoir le cerveau beaucoup plus ouvert à la fin. Mm-hmm. Vous savez, comme les écoutilles, quoi. C'est-à-dire qu'on on ouvre le hublot et elle nous force, encore une fois, les forces, à penser plus loin, à penser plus grand et surtout à penser de façon plus singulière. Parce que ce que dit la narratrice, qui n'est pas forcément d'ailleurs un double de Laura Vasquez, hein, c'est vraiment une narratrice, elle est parfois très agaçante, hein, il y a des choses, on a envie aussi de la secouer, mais elle pense par elle-même en fait. Et elle s'autorise au fur et à mesure d'ailleurs à penser par elle-même. Et c'est ça qui est libératoire, c'est-à-dire qu'on nous montre quelqu'un qui est un peu englué au départ avec des parents pas très cool, comme on a tous, parce qu'ils sont pas très drôle, ils sont très normés, ses parents, voilà, ils adorent la norme. Et elle, elle dit, mais moi, je trouve que la norme, c'est le manque d'effort. En fait, on est dans la norme parce qu'on ne veut pas sortir de la norme. Et tout le livre est là-dedans. Elle, c'est l'effort. Comment on fait pour sortir de ces cases? Comment je fais pour aller au-delà? Et ça, je trouve ça, mais jubilatoire.
Et le fait que ce soit tourné du alors, in fine, vers les autres, c'est ça qui est politique pour vous, Yann Farber.
Oui, parce que moi, ce qui m'a intéressé, c'est effectivement cette puissance d'incantation poétique mise au service d'une prose et d'un schéma narratif vraiment sans ratage, avec une force qui va vers de l'action. Ça m'a beaucoup plu. Et surtout, en fait, c'est porté par un désir d'émancipation. Mmh. C'est ça, surtout, par un désir de résistance, d'émancipation. Et ça va vers les autres, à savoir comment sortir d'une posture de d'isolement, de singularité, et comment dire cette singularité et comment la vivre. C'est-à-dire comment faire de la poésie le lieu d'une existence, c'est-à-dire arriver à construire un monde ensemble. Et elle le dit, il existe des liens épais. Il y a toute une vulgate universitaire autour des liens faibles, etc., que cette phrase, il y a des liens épais, balaie d'un revers de main, parce que le but pour elle, c'est justement d'avoir des liens épais, c'est-à-dire de véritablement exister. Il y a un poète qui vient de nous quitter, Stéphane Bouquet, dont on avait parlé au mois de juin dans Tout se tient, et là on a vraiment la même chose que chez Stéphane Bouquet, comme si elle en prolongeait le projet, à savoir de créer une existence qui serait capable de vous accueillir comme une singularité quelconque. C'est-à-dire garder à la fois son identité, mais pouvoir se perdre dans les autres, et finalement, non pas exister, mais coexister. Mmh. Et ce problème, non pas d'existence, mais de coexistence, c'est ce qui fait la force du livre. Et puis, c'est véritablement sa puissance romanesque à donner concrètement des situations. Moi, ce que j'ai préféré, c'est le bar lesbien. Voilà,
le centre du livre, le cœur du livre.
Le cœur du livre, le bar lesbien. Les expériences qu'elle peut avoir, parce qu'il y a un caractère très métaphysique à cette politique, on n'en a pas encore parlé, mais ce caractère très métaphysique fait que le personnage expérimente en fait toutes les strates possibles, toutes les issues possibles à cette existence qu'elle n'arrive pas à vivre. Et je trouve que c'est très beau, parce que on parlait d'incantation, on parlait effectivement de la force de sa phrase, mais il y a une formule de contre-héroïsme. Ce n'est jamais asséné comme une épreuve de démonstration, ce n'est jamais asséné comme quelque chose qui serait... On a parlé de punchline, il y a beaucoup de punchline, mais rien n'est marketé en fait. Voilà. On peut vraiment se couler dans le livre, parce que c'est vraiment l'œuvre d'une autrice majeure.
Alors on a parlé de la scène préférée de Yann Farber, et donc la vôtre, Marie, c'est la scène des sectes.
Ben oui, parce que justement, après ce bar lesbien, en fait, où il y a une grande prêtresse dans ce bar lesbien qui l'incite à la poésie, mais en fait, pardon, elle l'incite aussi à aller voir un peu ailleurs, quoi. Elle lui dit, mais va voir ce qui se passe dans le monde. Et elle finit par arriver dans un immeuble, et dans cet immeuble-là, dans le même immeuble, cohabitent, coexistent justement plusieurs sectes. Et alors, c'est très drôle parce qu'évidemment, ce sont des sectes avec des objectifs bizarres, assez étranges. Mais et donc, elles rencontrent les gourous. En fait, à chaque porte s'ouvre, il y a un gourou qui explique, bah, nous, voilà, on fait ça. Nous, on ne parle plus jamais. Nous, on prie tel truc. Pardon. Et c'est complètement absurde. C'est vraiment absurde. Mais c'est très drôle parce qu'on retrouve là quelque chose qu'elle fait d'ailleurs dans tout le roman, mais qui se condense à la fin. C'est-à-dire que, elle a un art, je trouve, pour écrire, la prédication. Vous savez, cet art de la prédication, on le lit de moins en moins dans le livre parce que c'est un peu désuet, c'est passé de mode. Elle l'a récupéré à son compte et donc elle fait... Alors, il y a l'agent immobilier aussi qui a une grande prédication. Il y a Claudie, la prêtresse du bar lesbien qui ne fait que ça. Et ces gourous de secte qui, à chaque fois, vont faire des grands monologues comme ça pour décrire pourquoi leur secte c'est la meilleure ou pourquoi ce n'est pas la meilleure et qu'elle devrait aller voir à côté. Et je trouve que ce talent-là, qui va donner d'ailleurs de très beaux monologues de théâtre, je mets une pièce dessus. Je sens qu'on va les entendre très bientôt sur les scènes parce que ça ressemble. C'est en effet une langue performative, donc elle est très vite orale. On a envie de la dire d'ailleurs. Elle a quelque chose de l'oralité qui est très beau. Et je trouve que cet art de récupérer un vieux truc littéraire qui est la prédication et de le mettre dans une version plus contemporaine, il n'y a pas. Je trouve qu'elle fait ça magnifiquement bien. Et je voulais juste revenir sur une chose qui m'a semblé pour moi aussi majeure dans ce livre, et on n'en a pas encore parlé, ce sont les citations.
Voilà, les références, comment c'est mis en scène dans ce livre.
C'est un roman qui regorge de citations, mais elles sont complètement fondues dans le texte. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas là en exergue, elles sont mises dans la peau des personnages, que ce soit d'ailleurs la narratrice ou quelqu'un d'autre. Et elle a ce système génial où on lit le roman, d'un coup il y a une phrase en guillemets et sur le côté, dans la marge, pas en bas, mais sur le côté, on a le nom de la personne qui a dit cette phrase avant elle. Sauf que la phrase, elle est réincorporée, elle est physiquement incorporée dans un nouveau personnage, ce qui fait qu'on lui redonne de la vie, en fait. Ce ne sont pas des citations mortes, ce sont des citations vivantes, et d'ailleurs c'est un grand roman sur la vie et sur comment la parole peut être le lieu de la vie, même quand on la démembre et même quand on la disloque. Et je trouve que cette façon d'utiliser les citations des autres est aussi ce que vous disiez d'ailleurs, une preuve de coexistence et de lien épais. On tisse un lien, on fait communauté.
Une générosité à toute épreuve.
Une générosité à toute épreuve qu'on peut lire dans une phrase qu'elle donne au milieu de toutes et qui pour moi est un but dans la vie. J'aurais voulu devenir une vieille de la campagne.
Voilà. Elle est très drôle, elle a vraiment des chutes aussi, oui, incroyables, oui. Et parfois une certaine mauvaise foi. Oui. On peut bien aimer aussi.
Oui, on adore.
Voilà. Donc c'était Les Forces de Laura Vasquez aux éditions du Sous-Sol. Et je rappelle que Laura Vasquez a été l'invitée du Book Club de Marie Richeux le 2 septembre dernier. Vous pouvez retrouver évidemment le podcast de l'émission sur le site de France Culture ou sur l'appli de Radio France. Johan Farber, Marie Sorbier, merci beaucoup.
Merci. Merci
Marie, on se retrouve tout à l'heure pour le Point Culture. Et vous qui nous écoutez maintenant, c'est à vous de vous faire une idée. Vous retrouvez toutes les références de ces objets sur le site de France Culture ou sur la page des Midi de Culture.